Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, première de deux émissions, aujourd'hui intitulée « L'homme, couronnement de la création ». Il s'agit d'une réflexion sur la place et le rôle de l'homme dans la création, qui est dans son ensemble, sans aucune exception, l'œuvre de Dieu, comme le confesse le symbole de foi, texte normatif par excellence de la foi orthodoxe. Nous allons donc discuter de la place que Dieu a réservée à l'homme dans sa création, et ce dans un contexte de crise écologique et de questionnement sur les origines de celle-ci. Cette crise appelle une réponse chrétienne, en particulier orthodoxe, et pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Larcher, auteur de nombreux livres sur l'Église orthodoxe et sa tradition, qui a fait paraître tout récemment, aux éditions des Sirtes, deux ouvrages qui ont trait à l'écologie. Un, les fondements spirituels de la crise écologique. Et deux, les animaux dans la spiritualité orthodoxe. Jean-Claude Larcher, pourquoi ces deux livres ?
La crise écologique est évidemment criante. On en parle de manière permanente dans les médias et il y a eu aussi une actualité récente qui a mis au premier plan les difficultés que les gouvernants ont à y faire face. C'est évidemment quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années et la situation empire, c'est-à-dire que avec la montée des températures dues notamment à la pollution, d'innombrables espèces végétales, animales disparaissent. Donc il y a de quoi évidemment s'en inquiéter. Les gouvernements se réunissent au niveau international pour essayer de trouver des solutions, mais on voit bien que ces solutions ont du mal à se mettre en place parce que souvent elles entrent en concurrence avec des projets économiques et une société industrielle qui est déjà très développée. Et donc, il semble bien, et ça, de plus en plus de gens en prennent conscience, que les solutions politiques ne suffisent pas vraiment à résoudre cette crise. Et il m'a semblé qu'il était indispensable de montrer quelque chose dont peu de gens ont conscience, à savoir que derrière cette crise écologique, il n'y a pas que des raisons politiques ou économiques, mais il y a aussi des raisons spirituelles profondes. Et ce sont ces raisons que j'ai essayé d'expliciter en faisant un diagnostic spirituel de la crise, mais aussi en proposant des remèdes de nature également spirituelle.
Il y a des courants en Europe, mais aux États-Unis aussi, et surtout, je dirais, qui remettent en cause beaucoup de choses dans ce cadre de l'environnement, si vous voulez, dans cette discussion sur l'environnement, et qui remettent en cause aussi très souvent le rôle du christianisme tout court, en lui reprochant d'accorder une importance trop importante à l'homme, et donc de pousser à une espèce de surconsommation de l'environnement.
C'est vrai que le christianisme a mis l'homme au centre de la création, et il, en le présentant aussi comme le roi de la création, celui qui est amené à la diriger, à la gérer, à en être le maître. Et c'est vrai aussi que la responsabilité de la crise écologique incombe à l'homme. Donc, certains penseurs, depuis d'ailleurs très longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, ont incriminé le christianisme comme responsable de la crise écologique en disant, voilà, le christianisme est responsable d'avoir donné un pouvoir à l'homme sur la création et donc responsable de ce qui se passe maintenant. Et il y a donc un véritable enjeu anthropologique derrière ça. Quelle est la véritable place de l'homme dans la création? Est-ce que l'homme est effectivement, comme nous le pensons, quelqu'un qui a été institué par Dieu au sommet de sa création pour la gérer, pour l'organiser, pour la maîtriser? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a été amené justement à la détruire par cet excès de pouvoir qui lui aurait été conféré par le judéo-christianisme? Et donc, certains penseurs, certains courants philosophiques qui viennent d'ailleurs des États-Unis, mais qui sont aussi développés en Europe, pense que il faut abolir, si vous voulez, la vision que le christianisme a de l'homme et diminuer la place de l'homme jusqu'à même l'éliminer en considérant que l'homme est par nature, si l'on peut dire, maintenant nuisible à la création. Et donc, c'est aller jusqu'à, paradoxalement, vouloir la disparition de l'homme par des moyens de contraception poussés, par des moyens d'avortement, par... Il y a même une des premières penseuse qui a développé cette idée qui s'appelle Savitri Devi est une néo-nazie qui a été jusqu'à préconiser l'extermination de l'espèce humaine pour pouvoir permettre à la nature de retrouver toute son existence et toute son effervescence et toute sa pureté originelle. Donc on a des enjeux anthropologiques extrêmement graves et il est important de préciser, c'est ce que j'ai essayé de faire, quelle est la véritable conception qu'a le christianisme, à travers notamment ce qu'en dit la Bible, mais aussi ce qu'en disent les pères, sur la place et le rôle de l'homme. Et donc, je montre notamment que, par exemple, dans la formule que l'on trouve dans la Genèse d'un ordre donné par Dieu à l'homme, croissez et multipliez, Dieu ne préconise pas du tout le développement économique, industriel, d'agriculture intensive que nous connaissons actuellement et qui a amené à une exploitation de la nature jusqu'à sa destruction, mais que, et ça c'est peu connu, ce mot est souvent interprété par les pères comme ayant en vue une croissance spirituelle, une multiplication des vertus, et par ailleurs, sans évidemment abandonner l'idée que l'homme aurait une responsabilité matérielle sur la création, l'idée d'une maîtrise de l'homme ne signifie pas du tout une exploitation, mais simplement une capacité de bien la gérer, de bien l'ordonner, de bien la garder surtout, et de bien la protéger. C'est-à-dire que l'homme a été avant tout institué comme un gardien, un protecteur de la création, et quelqu'un qui devait avant tout veiller à sa bonne expansion et pas du tout à sa domination tyrannique et encore moins à son exploitation économique.
Je crois qu'il faut aussi aller, vous le faites dans votre livre, dans les textes fondateurs, en l'occurrence c'est la Genèse, la création du monde, et aussi le début de l'évangile de Jean, parce que Jean réécrit la création, en quelque sorte. Et donc, vous insistez sur le fait que la Genèse commence par le mot arché, qui veut dire début, mais également principe, bien sûr, et que ce livre, vous dites, est destiné à rendre compte spirituellement des origines, mais aussi de la finalité de l'homme.
Oui, alors... ce qui est très important aussi de souligner, c'est la vocation spirituelle de l'homme par rapport à la création. C'est très peu un thème très peu abordé, mais les pères et notamment saint Maxime le Confesseur que je connais bien en ont beaucoup parlé. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être un médiateur entre la nature et Dieu. C'est-à-dire qu'il a pour tâche de percevoir la présence de Dieu dans la création, dans chaque créature, à travers notamment ce que nous appelons dans la théologie orthodoxe les énergies divines, ou encore dans ce que saint Maxime le Confesseur appelle les logoi, qui sont présents dans les créatures et qui sont la marque de ce que Dieu a comme projet pour les créatures. Et donc l'homme a pour tâche finalement de déchiffrer ses énergies et ses logoi dans la création, et par là même d'offrir la création à Dieu, de rendre, comme dit saint Maxime, à Dieu comme un don, le don que lui-même nous a fait. Et donc c'est dans une activité contemplative que ça peut se faire, activité contemplative qui suppose d'ailleurs l'absence de passion ou la purification des passions qui contredisent ce projet, et aussi une activité, c'est un autre projet de Dieu mais tout à fait concomitant, une activité d'Eucharistie, rendre grâce à Dieu pour la création. Et donc quand certains auteurs accuse aussi le christianisme d'avoir été responsable de la crise écologique pour avoir priver la création de la présence divine, une présence qui est beaucoup plus visible, certes, dans le paganisme ou dans les religions extrêmes orientales. Il faut quand même rappeler que peut-être dans le christianisme occidental, cette présence de Dieu a été, à partir de la Renaissance, surtout moins bien perçue, parce que l'Occident n'avait pas cette théologie des énergies divines et des logoi divins que nous avons dans le christianisme orthodoxe, mais que, évidemment, on ne peut pas quand même rendre le christianisme occidental entièrement responsable de la crise écologique, parce qu'on peut montrer aussi que c'est à partir d'une rupture avec les bases du christianisme encore très présentes au Moyen-Âge en Occident, que la crise écologique a commencé à se développer à partir d'un changement de paradigme qui a fait de l'homme, mais séparé de Dieu cette fois, le centre de la nature, et qui a développé des attitudes comme le rationalisme, l'individualisme, et qui ont perdu de vue, justement, dans ce naturalisme aussi qu'a développé la Renaissance, la présence de Dieu à sa création, et donc ce qui pouvait motiver le respect de l'homme à l'égard des créatures. Parce que si Dieu est absent, comme disait Dostoïevski, tout est permis, Dieu peut être le seul fondement absolu de la morale, non seulement de l'éthique humaine, mais aussi de la morale de l'homme dans ses devoirs par rapport à la nature. Et à partir du moment où on a éloigné Dieu à travers une conception d'un Dieu lointain, qu'ont développé surtout les Lumières, à partir du moment où on a tout ramené à l'homme dans l'humanisme de la Renaissance, à partir du moment où on a développé une conception individualiste de l'homme qui a favorisé la consommation égoïste du monde, alors on a jeté les bases, si vous voulez, de ce qu'est aujourd'hui la crise écologique et qui est fondée sur des passions humaines dont je parle aussi beaucoup dans ce livre parce que c'est important.
Nous allons maintenant dans l'Église qui loue tous les jours dans les offices la création de Dieu, cette œuvre merveilleuse, en particulier dans le psaume 103 qui est chanté au début des Vêpres, donc c'est un office quotidien. Et là, nous allons entendre un extrait de ce psaume 103 par le chœur du séminaire Nicolo Ugreschi, dirigé par Anatoly Grinchenko. Et après cet extrait du psaume 103 par le chœur du séminaire Nicolo Ugreschi, dirigé par Anatoly Grinchenko, nous revenons à notre entretien avec Jean-Claude Larcher sur l'homme couronnement de la création, première émission aujourd'hui. Nous avons parlé de la création, de la beauté de la création, de l'œuvre merveilleuse de Dieu. Et puis il y a le péché, ce qu'on appelle le péché originel, ce qui a introduit dans le monde, dans la création, des problèmes dont on n'arrête pas de parler. Alors, quel est l'effet cosmique qu'a quand même cette faute, cette première perte de contrôle de l'homme premier?
Ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que le péché de l'homme n'est pas seulement quelque chose qui a des effets négatifs sur lui-même, mais qui a des effets négatifs sur son environnement et sur toute la nature qui est affectée par les conséquences de ce péché, non seulement le péché original introduit selon les pères la corruption, la passibilité et la mort, mais il va semer le désordre dans la nature même. Et c'est ce désordre, si vous voulez, est en partie lié à la responsabilité de l'homme relativement aux passions qu'il commence à développer. C'est-à-dire que l'homme va changer totalement ses relations avec la nature. Alors que Dieu avait, dès le départ, instauré des relations harmonieuses que l'homme était appelé à confirmer, le péché va introduire la division entre l'homme et la nature, donc entre l'homme et les créatures, et entre les créatures elles-mêmes, qui ne vont plus bénéficier de la médiation pacifiante de l'homme, de la médiation harmonisante de l'homme. Et donc, il va y avoir des oppositions qui vont d'abord s'établir, et puis il va y avoir justement le primat donné à l'homme à ses propres passions, à sa propre jouissance égoïste dans ses rapports avec la nature. Et c'est à partir de là que va commencer une relation avec la nature qui sera une domination d'exploitation de la nature en vue d'une jouissance purement égoïste. Et vont se développer des passions comme l'avidité, comme c'est-à-dire le besoin d'avoir toujours plus, comme évidemment aussi les passions liées à la jouissance de la nourriture, les passions liées à ce que les pères appellent la philotie, l'amour égoïste de soi qui va retentir sur l'environnement à travers l'homme qui va donner le primat à ses propres besoins. Et donc la perception de Dieu qui établissait entre l'homme et la nature, une relation de respect va aussi disparaître. Dieu ne sera plus perçu dans la création. Comme je le disais, ce processus va être assez long quand le christianisme va se répandre dans le monde oriental et dans le monde occidental. Évidemment, il va y avoir, par rapport au paganisme, une relation nouvelle qui va se rétablir et qui va retrouver la conformité avec la volonté de Dieu quant à la mission de l'homme. Mais comme je le disais aussi, à partir de la Renaissance en Occident, il va y avoir un changement de paradigme, et là les passions de l'homme vont pouvoir se donner libre cours non seulement à l'intérieur de lui-même mais dans des institutions objectives. Et je montre comment justement si vous voulez, progressivement, pour satisfaire ses passions, surtout sa passion d'avidité, l'homme va développer une industrie qui va exploiter les ressources naturelles au-delà de ses propres besoins, dans le but simplement de gagner de l'argent. Comment aussi une agriculture intensive et un élevage intensif vont se développer déraisonnablement au détriment de la nature. Et comment aussi l'avènement du capitalisme au 18e, 19e siècle, va encore développer ses passions destructrices pour la nature. Et donc, c'est à travers ces passions que, finalement, il faut chercher les véritables causes de la crise écologique, et donc à travers aussi leur guérison, leur réduction, qu'il faut chercher des remèdes à cette crise.
Nous allons maintenant passer aux remèdes que vous préconisez, parce que c'est étonnant, je dirais presque. Quels sont les remèdes que les chrétiens peuvent apporter à cette crise, en sachant qu'ils sont conscients du fait que Dieu n'a pas demandé cette surconsommation et cette exploitation du monde qui va trop loin par rapport à la mission que Dieu a confiée à l'homme?
Je crois qu'il y a d'abord un rôle fondamental du repentir, c'est-à-dire que l'homme doit d'abord prendre conscience des fautes qu'il a commises par rapport à la nature, doit décider justement un changement d'attitude, c'est le vrai sens du repentir, la métanoïa, un changement de mentalité par rapport à sa relation à la nature. Et puis, il doit y avoir une lutte organisée à l'intérieur de chaque homme par rapport à ses passions qui ont causé le développement catastrophique que nous connaissons, lutte contre l'amour de l'argent, lutte contre l'avidité, lutte contre l'envie. Et ça ne peut passer que par une maîtrise de soi, quand nous appelons la tempérance en termes de vertu, mais aussi par une ascèse, peut-on dire, par un sacrifice qui peut à un certain moment être douloureux, mais qui s'avère absolument nécessaire. Alors dans l'Église orthodoxe, nous avons une certaine expérience de la modération par rapport à la consommation à travers le jeûne que nous pratiquons pendant toute une partie de l'année, et qui consiste notamment à s'abstenir de tous les produits animaux, en quoi nous rejoignons d'ailleurs un courant tout à fait à la mode, mais avec des motivations spirituelles que ce courant n'a pas. Et ce qui est important, c'est de retrouver la capacité de contempler la nature et d'y saisir de nouveau la présence de Dieu, ce qui permet de redonner un fondement solide au respect de la création.
Merci beaucoup, et je lis un petit extrait de votre livre où on voit que vous êtes conscient de la difficulté de convaincre de ça, mais vous avez la réponse chrétienne. On pourra trouver utopiques les solutions spirituelles que nous avons proposées, surtout à l'échelle d'une humanité qui semble comporter de moins en moins de chrétiens et qui est engagée dans des processus technologiques et économiques qui semblent irréversibles. Et plus loin, l'idée du christianisme a toujours été que ce n'est pas en changeant la société que l'on changera les hommes, mais c'est que en changeant les hommes que l'on pourra changer la société. Ce qui est très important parce que ça montre que c'est le comportement de chacun de nous qui peut conduire à un certain changement. Alors, pour terminer, peut-être, on va revenir dans 15 jours, mais sur la position des pères et des auteurs chrétiens, y compris les pères spirituels actuels, sur la question.
Oui, il donne l'exemple de ce respect de la nature, hein, et notamment, il faut dire que dans plusieurs pays orthodoxes, les monastères eux-mêmes ont développé une agriculture écologique qui ne se situe pas d'ailleurs à un simple plan matériel, mais qui donne aussi l'exemple d'une bonne attitude spirituelle. Il faut dire qu'il y a eu des offices qui ont été développés spécialement à l'intention de la création, notamment chaque année, le 1er septembre, il y a un service complet en faveur de la protection de l'environnement qui vise à toutes ces attitudes spirituelles que nous avons signalées. Et puis, je voudrais citer aussi le mont Athos, qui reste une zone complètement protégée, puisqu'il n'y a absolument aucune industrie, que l'agriculture et l'élevage y restent absolument traditionnels, et que donc nous avons, si vous voulez, des paradigmes nouveaux d'une restauration de la bonne relation de l'homme avec la nature.
Merci beaucoup, nous allons y revenir dans 15 jours pour la deuxième émission. Je rappelle aussi que le patriarcat œcuménique, depuis le patriarcat du patriarche défunt maintenant, Dimitrios, a instauré cette journée du 1er septembre comme journée de l'environnement, ce que son successeur, le patriarche actuel, Bartholomée, suit avec une très grande passion, je dirais. C'était donc la première émission sur l'homme, couronnement de la création, avec Jean-Claude Larcher. Ainsi prend fin à Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Pierrick Charles. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.